Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour du débrief de l'actu tech, merci d'être là en ce mercredi soir. Toujours un plaisir d'aller à votre rencontre, peut-être à la fois dans votre voiture, chez vous. Peut-être êtes-vous en train d'écouter Tech & Co en replay, en podcast. Vous le savez, on est là chaque soir, 19h30, 21h. Avec ce soir sur le plateau, Salim Nassur, fondateur de Mars, Mathieu Soulet, responsable du labo de KT Innovation à San Francisco, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. On va parler maintenant du constructeur automobile General Motors, que vous connaissez tous, bien sûr, et qui a une espèce de stratégie assez intéressante. Parce que vous savez que, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, la voiture électrique, elle n'est plus forcément le truc indispensable, hein, puisque en fait, voilà, les moteurs thermiques reviennent, etc. Et General Motors se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de toute cette R&D que j'ai pu mettre en place, et notamment de toutes ces batteries que j'ai créées ou imaginées pour mes voitures. Et je trouve que c'est plutôt malin. General Motors va s'associer à une start-up qui s'appelle Peak Energy pour créer des batteries en fait qui nous permettront tout simplement d'alimenter des data centers. Petit reportage sur ce sujet et on revient juste après. Regardez.
La marche arrière de Donald Trump sur la réduction des émissions carbone fait turbiner les constructeurs. Comme ils peinent à écouler leurs modèles électriques, certains se tournent vers les secteurs où la demande en énergie explose. C'est le cas des data centers qui doivent régulièrement absorber les fluctuations de consommation des puces, mais aussi des sites industriels qui cherchent à lisser les pics de demande en énergie. Après Ford ou l'équipementier Valeo, c'est donc General Motors qui va fabriquer des dispositifs dédiés. GM va s'associer au spécialiste Peak Energy afin de produire des batteries aux États-Unis avec une phase de test en 2028. Elles auront la particularité de fonctionner au sodium, disponible sur le sol américain, plutôt qu'au lithium, comme c'est majoritairement le cas aujourd'hui. Le sodium n'a pas besoin d'être refroidi, ce qui est censé rendre les batteries plus fiables et moins coûteuses à exploiter. Ce projet s'inscrit dans un investissement global de 900 millions de dollars, annoncé il y a quelques jours par GM. Mais face à la concurrence chinoise, la bataille n'est pas gagnée. CATL et BYD sont aujourd'hui les fabricants de batteries au sodium les plus avancés.
Et reportage signé Erwan Maurice de la rédaction de BFM Business. Voilà la batterie qui se retrouve des facultés insoupçonnées finalement. Alors on a beaucoup parlé de grid énergie il y a quelques années de ça, je ne sais pas si vous en souvenez. Vous avez une voiture, une Zoé ou une Tesla, vous la garez chez vous, elle se branche en fait sur votre réseau électrique et le réseau électrique va plus pomper le réseau EDF ou Engie, mais va pomper le réseau de votre batterie finalement. Ça fait
On entend beaucoup moins parler de
cette technologie.
Ça marche. Tu as dans les exploitations agricoles, ça marche pas mal. Tu as des tracteurs qui se chargent dans la journée
et le soir. Et qui le soir restituent leur énergie.
Restituent leur énergie pour atteindre leur hangar, enfin des travaux agricoles.
Et dans les data centers, bien évidemment, ça a tout son sens. Ces data centers qui sont extrêmement gourmands en énergie. C'est une réalité, ça, Mathieu. Tu en entends parler dans la Silicon Valley.
Oui. Alors dans le cas de GM, en fait, il y a deux partenariats qui sont différents. Oui. Celui sur les data centers, ça a été fait en fait annoncé il y a quelques mois. C'est un partenariat avec une boîte qui s'appelle Redwood dessus Materials qui recycle en fait les batteries. Donc en fait, General Motors donne des batteries secondaires, parfois primaires aussi. Et ils ont bossé après.
C'est donc des batteries qui étaient dans des voitures,
voilà.
C'est ça?
Donc des voitures, dans des voitures ou des batteries neuves aussi, qui donnent à Redwood Materials qui faisait du recyclage de batteries et qui utilisent pour notamment une boîte qui s'appelle Crusoe AI, donc un des néo-clouds dessus. Donc ça, c'est le partenariat qui avait été annoncé il y a quelques mois, ce data center. Et là, le Peak Energy, c'est un peu différent. C'est sur le sodium. Donc c'est des batteries qui ne sont pas utilisées pour les voitures. C'est des batteries en fait stationnaires, on appelle ça, qui sont utilisées plutôt justement sur la partie grid. Donc c'est plutôt des électriciens qui utilisent ça quand il y avait du vent, du soleil, etc. qui fournit, on stocke ça sur des énormes batteries en fait sodium là en l'occurrence. Donc c'est l'annonce avec Peak Energy, c'est plutôt sur la partie dessus, et ça correspond ou c'est en rebondissement. Ford avait aussi annoncé un business Ford Energy. Ils ont bossé notamment avec CATL, CATL en anglais, l'acteur chinois qui fait des batteries. Et donc, en fait, c'est en miroir de ce que font les Chinois. C'est pas les Américains qui ont inventé ça. BYD, le constructeur automobile, est un énorme acteur des batteries. Et ils font pas que des batteries pour les voitures. Ça sert aussi pour fournir pour ce qu'on appelle les batteries stationnaires pour les parties, en fait, à grande échelle, pour faire simple, et Tesla aussi, pour les électriciens, et aussi parfois pour les data centers. Donc, c'est vraiment une volonté de diversification des acteurs, en disant finalement, quand on est un spécialiste des cellules électriques, des batteries, etc., et qu'on en produit, General Motors, ils produisent en fait les cellules avec une joint venture avec LG aux États-Unis. Donc, c'est ça qu'ils produisent. Et donc, finalement, c'est une usine qui produit pour les voitures, ça peut aussi produire pour d'autres usages. Et donc, c'est en réflexion, en tout cas en miroir pour moi, de ce qu'ont fait les Chinois.
On parlait de BYD, BYD qui se retrouve sur la liste des, on va dire, des constructeurs indésirables aux États-Unis. Hein. C'est pas anodin, hein. Et avec beaucoup d'autres, bien évidemment.
Hein. Ça a été controversé parce que Ford a fait ce partenariat avec CATL, donc le concurrent principal de BYD. Ils ont redit, quand l'administration Trump, où Trump était en Chine il y a quelques semaines, que le partenariat était justement un exemple de collaboration entre Ford et dessus. Pour l'instant, le partenariat court toujours, après on verra jusqu'à où il va.
Oui, parce que l'idée, c'est que en fait, toutes ces boîtes pourraient aider les militaires chinois. C'est ça, en fait, le...
Potentiellement, voilà. Potentiellement, s'il y a des liens avec les militaires chinois, l'armée américaine dit on ne veut pas bosser avec, pour faire ça.
Salim, ce sujet ?
Que je n'aurais pas dit mieux. Tu as été très complet. Pour le coup, je vais déplacer le débat, parce que tu as très bien résumé la situation. Moi, si j'apporte un autre angle, je dirais qu'il y a deux trucs là-dessus que je trouve intéressants. Un, c'est que ça nous rappelle... comme un peu plus à chaque fois qu'on en parle, que toute cette partie IA, data center, il y a beaucoup de physique en fait, et que sans, tu vois, on était à une époque où on parlait beaucoup de software, après on a parlé aussi d'hardware, mais là c'est vraiment de l'énergie, du physique, donc du vraiment brick and mortar, quoi, tu vois. C'est... Donc ça c'est le premier truc, et le deuxième truc, alors on me dit souvent que je suis un peu trop admiratif des États-Unis, et pas que, parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas bien. Tu le sais bien puisque tu habites dans la Silicon Valley, comme j'ai pu le faire. Mais moi, je trouve ça assez remarquable de dire qu'une grosse boîte comme Géré arrive à pivoter comme ça. Tu vois, j'aimerais qu'il y ait plus de boîtes françaises qui arrivent à se dire, ok, là, ce marché-là, il est en train de se réduire. Je vais aller sur un autre marché. Et un marché qui est en croissance. Et nous, soit on met beaucoup de temps, je pense qu'on parlera des CFR tout à l'heure, on met beaucoup de temps à pivoter, ou soit on pivote pas et on se mange le mur. Donc ça, pour moi, c'est une belle leçon de savoir réorienter son entreprise, quelle que soit sa taille, pour aller vers un marché qui est prometteur. Là, il y en a un autre qui est en train de décliner.
Fred, c'est vrai qu'en plus, toutes ces constructeurs automobiles, pendant des années, on leur a dit « Attention, l'électrique, c'est l'avenir. Bientôt, vous aurez plus de thermique. » Ils ont investi des milliards. Et finalement, c'est pas mal de rebondir, de pivoter sur toute cette R&D qu'elles servent à quelque chose.
Ça, et ce qu'il faut remarquer, c'est tout l'écosystème aussi qui est en train de pivoter. On se demandait, alors c'est vrai que le CES était parfois un peu plus salon auto que salon de la technologie, mais on voyait quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui est Valeo. Hein. Valeo, on les voyait faire leurs innovations dans la voiture. Alors évidemment, pour le CES, c'était bien. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Valeo, aujourd'hui, travaille aussi avec dans les parties data center, parce qu'ils savent refroidir, parce qu'ils ont aussi une expertise industrielle. Hein. Parfois, l'appareil industriel, il suffit, on change un peu, enfin je le dis simplement, mais c'est un peu plus complexe que ça. Ils ont cette expertise industrielle que la supply chain, la production et puis ensuite la livraison. Donc là aussi, ils savent faire. Ils sont tous en train de se dire, quels sont nos axes de croissance aujourd'hui ? Alors oui, on va développer des produits toujours plus rapides, plus performants, plus solides, etc. Mais là, on voit des choses et on voit tous les spécialistes de l'électronique de puissance justement qui jouent sur cette partie data center. On voit les fabricants de systèmes thermiques et de pompes qui sont aussi en train de se tourner vers, tiens, comment on va refroidir ces data center. Enfin, tout le monde, il faut quand même voir qu'un data center aujourd'hui, c'est des centaines de millions de kilomètres de fibres pour relier tout ça, qu'un serveur, Nvidia et tout ça, c'est le poids, c'est d'une complexité incroyable. On a toujours l'impression que c'est des cartes serveurs, on les enlève, on les met. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais je parle des usines, des AI factories. Et donc, si c'est plus complexe que ça, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Et donc là, y a tout le monde qui se regarde. Et je trouve que c'est intéressant de voir un General Motors, de voir un Valeo, de voir, ce que fait la Chine depuis longtemps, mais de les voir intégrer. Chercher cette diversification, aller vers ces data centers. Et là, pour le coup, c'est vrai que la Chine a pris un joli coup d'avance, parce que quand on voit un BYD, alors même s'ils sont interdits, sur la liste noire aux États-Unis, je crois qu'ils contrôlent pratiquement tout Et puis à la fin, on a même vu.
Il y a Tesla qui peut peut-être jouer à une carte à jouer. Bah non,
ils,
Mathieu, parce qu'ils sont quand même.
Historiquement,
ils le font depuis le départ.
Ils ont racheté SolarCity pour l'intégration. Ils vont même jusqu'aux panneaux solaires et l'intégration avec les batteries. C'est assez long là-dessus.
Mais c'est vrai qu'ils n'en ont pas beaucoup parlé dans le projet TerraFab, mais on peut imaginer que ça pourrait être aussi une source d'énergie maîtrisée par l'industrie de Tesla pour alimenter ces...
Mais je pense que pour eux, ils n'en ont pas parlé, parce que pour eux, c'est naturel.
Enfin, ouais.
Ouais, et d'ailleurs, je regardais les investisseurs, je trouvais que les investisseurs, ils commencent à... Je parlais de Valeo, parce que ce qui m'avait attiré un jour, c'était de... Enfin, il y a quelques semaines, c'est que je voyais que Valeo a été placé parfois dans les valeurs pour les data centers, enfin, dans l'écosystème data center.
Leur cours,
General Motors. C'est intéressant de voir aussi que, qu'ils ont cette perception-là. Et donc là, comme tu dis, après... nous, on a un Valeo, on a un OP Mobility qui est en train de bouger. Enfin, voilà, faut que tout le monde
réfléchisse. Mais on bouge moins vite.
Oh, oui.
C'est le temps que ça arrive, qu'on fasse 50 réunions, qu'on se décide.
Après, il y a aussi un legacy humain, un legacy, ça aussi.
Oui, mais le legacy humain, pardon, je te coupe, mais vous le savez, presque tous les jours dans différentes boîtes et de grande taille, le legacy humain, il est dans la tête, en fait. On n'a pas cet esprit de croissance dont je parle toujours. Et tu vois, il y a des trucs où quand tu es aux US, ça se décide en une réunion. Ici, il faut en faire 50, même pas 50, on va en faire 4 ou 5. Mais 4 ou 5, le temps d'aligner les agendas, il s'est passé des mois, voire une année.
Oui.
Et pendant ce temps-là, les autres ont avancé.
Tu sais, t'as qu'à voir à quelle vitesse vont les chartes IA dans l'entreprise pour pouvoir développer. Non, mais je parle juste de ça. Tous les gens se disent faut aller vers l'IA, mais il suffit de quelques-uns qui logiquement, portent des garde-fous, disent attention, faut pas faire n'importe quoi. Mais parfois, ça va jusqu'à une situation de blocage. Et on a
non, parce qu'une charte IA, t'as raison. Si t'es dans un grand groupe et que t'as des syndicats, etc., c'est plus compliqué. Tu vas te faire bloquer, etc. Mais il faut te rappeler que le tissu économique français, c'est pas que des grands groupes, hein, c'est des PME. Et les PME aujourd'hui, tu vois, j'étais même l'autre jour dans une PME. Ouais, ils me disent, on va se mettre à faire une charte IA. Je leur rappelais gentiment, je leur dis, nous chez Google, on avait fait en 2016, c'était il y a 10 ans. Alors d'accord, c'est Google. Mais entre 2022 et 2023, où ChatGPT est apparu, et 2026, où tu commences à te dire peut-être qu'il faut que je fasse une charte IA, c'est qu'il y a un moment où tu n'es pas allé assez vite et tu ne t'es pas adapté.
Si je peux me permettre, moi, qui ai les deux passeports américains et français, en l'occurrence, Renault avait quand même lancé une filiale énergie il y a quelques années, alors que GM vient de commencer, entre guillemets, il y a quelques temps. Oui, oui. C'est pas exactement aussi radical. Enfin, je veux dire, les grands groupes américains hors tech sont pas forcément beaucoup plus moins réunionnistes, pour être clair. Après, ils peuvent bouger parfois plus vite à un moment, mais sur ces sujets-là, les Américains, à part Tesla, sont plutôt en retard, en fait, historiquement, par rapport aux Chinois.
Je parlais des Français. Et puis, souviens-toi, General Electric, Jack Welch avait dit, nous, dans 20 ans, on ne sera plus une boîte une boîte de software. Ils ont fait machine arrière. Et à côté de ça, chez nous, on voit des General Electric qui sont en train de très bien fonctionner, racheté un gros Américain, Aveva. Enfin, ils en ont racheté d'autres depuis.
Parce qu'en fait, et c'est pas pour faire du French bashing, mais il y a un moment, on peut pas à chaque fois citer les quelques bons exemples qu'on a pour cacher la forêt de misère. Je suis désolé, de gens qui vont pas assez vite, qui prennent pas des décisions assez vite, qui n'ont pas de vision sur où on va aujourd'hui.
Ça cache aussi la misère américaine.
Encore une fois, tu prends les 500 boîtes cotées aux États-Unis, tu prends les 500 en France. Il y a pas photo.
Il y a pas photo.
On termine là-dessus, Fred.
Les 10 ans de Vivatech là cette année, qui a lieu la semaine prochaine, on y sera avec Tech & Co, etc. On aura plein d'émissions. Enfin, ça va être formidable. Sur les 10 ans, quelqu'un m'a interrogé tout à l'heure, il me dit, mais en 10 ans, on n'a pas vu des startups, tout ça, Mistral n'a que 3 ans. J'ai dit, oui, mais en 10 ans, tu regardes les entreprises, quand même, comment elles se sont transformées. Alors, peut-être pas suffisamment vite, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a, même il y a 5 ans, faire parler un LVMH, faire parler un L'Oréal, faire parler un Carrefour de digital, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, ils ont quand même franchi allègrement ce pas. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à Vivatech, mais en tout cas, Vivatech est un bon marqueur.
Je vous propose d'aller maintenant chez Mathieu Soulet, dans la Silicon Valley. Tu vis où, à San Francisco ?
Dans ma maison, exactement, dans San Francisco.
Voilà, puisque
tout le monde est invité chez toi. Alors.
Responsable du Labo Caté Innovation à San Francisco. Il y a un truc qui est hyper intéressant en ce moment, cette tendance de l'IA qui détruit des emplois. Et il y a des études qui sortent, notamment une qui dit ceci, plus de 120 000 postes ont été supprimés depuis le début de l'année, et la plupart plupart des dirigeants de ces boîtes invoquent le virage dans l'intelligence artificielle pour justifier les licenciements. Alors, il y a plein d'infos dans tout ça. Est-ce que, finalement, l'IA, c'est la bonne excuse pour dire, on va dégraisser la boîte parce que, on sait pas trop quoi dire. On va dire que c'est à cause de l'IA, ça va être génial et ça passera crème. Ou est-ce que vraiment, à ton avis, l'IA a un impact sur l'emploi aujourd'hui? 120 000, c'est pas anodin, depuis le début de l'année.
Alors, c'est un des débats les plus passionnés de la vallée depuis 2 ans, à savoir est-ce que ça détruit beaucoup d'emplois, est-ce que ça en crée, etc. Alors, je dirais que la réponse, sans doute, je suis pas normand, mais c'est un peu au milieu. Alors, ce qui s'est passé, les chiffres sont là. Pour l'instant, il y a eu 120 000 annonces de suppression de postes dessus. Alors, quand on dit 120 000, c'est quoi? C'est 8 000 chez Meta, il y a plusieurs milliers chez Autodesk, etc. Donc, c'est des boîtes concrètes dessus. Mais ça, c'est dans l'industrie tech. Et il y a une autre étude qui est sortie il y a une semaine que je vais vous citer. Alors, juste pour remettre dans le contexte, le taux de chômage aux États-Unis, c'est 4,3% en général, et dans la tech, c'est 8%. Donc, on est quand même à des niveaux assez bas. Pour l'instant, on n'est pas encore dans le chômage de masse dans la tech. Et par contre, la création d'emplois de type technologique dans les boîtes non tech, en fait, a grossi pour le coup de juste 70 000 emplois juste en mai. Pour donner une idée. Donc, en fait, paradoxalement, les boîtes de tech, encore une fois, on parle de 6 millions de personnes. S'il fait moins 50 000 plus 50 000, ça joue, mais c'est 1%, en fait. Et paradoxalement, les jobs, notamment en cloud computing, en IA, qui ne sont pas dans les boîtes de tech, sont en croissance. Donc, les deux arrivent en même temps. Et pour revenir à la question que tu posais, François, en effet, alors, on parle de AI washing, qu'on avait le green washing à l'époque. Le AI washing, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on annonce des suppressions de postes à cause de l'IA. En général, c'est pour dire deux choses. C'est que l'IA va remplacer les gens, en place déjà les gens qu'on licencie et c'est un peu le deuxième sujet, c'est qu'on justifie en fait ces suppressions d'emplois en disant on a besoin de ces budgets-là pour réinvestir dans l'IA. C'est notamment ce qu'a annoncé Meta ou Amazon. Donc la réalité, c'est sans doute un prétexte pris de plus en plus, et là même aussi, pensez juste aux déclarations de Sam Altman ou de Dario côté Anthropique, qui a annoncé il y a quelques mois tous les cols blancs, c'est fini dessus. Bon, ils ont changé d'avis, en tout cas dans les discours, depuis quelques semaines. Mais pour l'instant, et je peux vous dire, pour connaître assez bien Stanford et Berkeley, il y a des chercheurs qui tous les jours regardent à la loupe est-ce que ça crée ou pas. Pour l'instant, dans les chiffres de l'emploi, ça se voit pas.
Donc, à ton avis, ce chiffre-là,
il t'a dit énormément.
Non, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choix supprimés avec ça, mais en fait, il y en a aussi pas mal qui sont créés. Okay. Et donc, la réalité, c'est pas forcément. On ne perd pas 20% de chômage aujourd'hui.
Ouais, moi, je suis halluciné par ce débat. En fait, ça fait des années qu'on a ce débat. Ça fait 10 ans qu'on a ce débat. Et je n'arrive pas à comprendre ce qu'on n'arrive pas à comprendre. En d'autres termes, il y a un moment, c'est assez simple. À une époque, il y avait des entreprises qui finançaient des talents. Aujourd'hui, tu as des entreprises qui vont financer de l'IA pour se séparer de ceux qui n'ont pas de talent. Je vais essayer de la refaire. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te mets à la place d'un chef d'entreprise. Est-ce que tu vas continuer à payer? Il faut regarder au coût horaire, en fait. On parlait de coût tout à l'heure. Tu veux payer quelqu'un qui va bosser moins bien qu'une IA? Non. Si à un moment l'IA est supérieure, tu vas payer l'IA parce qu'il n'y aura pas d'arrêt maladie, il n'y aura pas tout ça. En revanche, si tu es le même chef d'entreprise, mais que tu as un vrai talent, quelqu'un qui est bon dans son métier, mais qui en plus maîtrise l'IA, au lieu de faire 10 choses, il en fera 100. Et donc c'est tout dans l'intérêt des gens de pouvoir, enfin des entreprises, de garder ces talents qui vont maîtriser à la fois leur métier, leur expertise et l'utilisation de l'IA pour être encore plus productif pour l'entreprise et apporter plus de croissance, plutôt que se dire est-ce que c'est le débat de je vire des gens, je vis par des gens. Ceux qui vont perdre leur emploi, c'est ceux qui sont pas bons et ceux qui seront moyens et qui ne pourront pas avoir un edge par rapport à une IA. Et pour moi, enfin, je le vois tous les jours en entreprise et pas que dans les grandes entreprises. Même dans un cabinet d'avocats aujourd'hui, les gens ils te disent, tu vois, t'as un avocat qui se dit, j'étais encore là pas longtemps, il dit, moi aujourd'hui, le travail que me rend un Claude, on parlait de Claude, est meilleur que celui de mon analyste. Il y a un moment, je me pose la question. Donc, si en plus il se trouve que l'analyste, il n'a pas envie de se lever le matin et il n'a pas envie de venir bosser, tu dis OK, ça va. Si par contre ce même analyste, il utilise vraiment l'IA, il va t'abattre beaucoup plus de boulot. Et pour cet avocat, il aura peut-être moins de choses à gérer. Donc, moi, je pense que la casse sociale et que j'annonce depuis longtemps, elle va se faire pour ceux qui ne se mettent pas au niveau.
Est-ce que tu ne penses pas aussi que tout dépend de l'activité de la société? Moi, j'ai déjeuné, alors je ne veux pas citer la boîte, mais avec un patron d'une énorme boîte européenne qui me disait qu'aujourd'hui, ils savent que l'IA va avoir un impact sur leur effectif parce qu'il y a énormément d'ingénieurs et que ces ingénieurs vont être remplacés par l'IA. Ça, c'est une certitude. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à imaginer le nombre d'employés qui vont être impactés en fait par cette IA. Et je pense que tout dépend dans quel secteur tu te trouves, tu vois.
T'as raison en partie dans le sens où oui, bien sûr, il y a un impact sectoriel. Après, encore une fois, et c'est pour ça que
si t'analyses des documents et parfois il te faut des cols blancs pour analyser des documents parce que ce sont des documents très techniques avec des normes de sécurité, de réglementation hyper poussées. Aujourd'hui, c'était des humains qui faisaient ça, qui étaient très bien payés parce que ça, c'était pas simplement du tri de papier, c'était des trucs hyper pointus. Demain, l'IA fait ça, elle va détruire des milliers d'emplois.
Bien sûr, mais c'est pas demain, c'est aujourd'hui d'ailleurs.
Et c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui. Mais oui, mais encore une fois, si tu prends tous ces dossiers, ben, à un moment, tu pourras traiter plus de dossiers. Il te faudra quand même un peu d'humain.
Oui, Fred.
Alors, première chose.
Pour terminer là-dessus,
après, sur le nombre d'emplois, très vite, de la même façon que là, les grandes APO vont peut-être assécher un peu l'accès au capital. Je pense qu'on, dans la Silicon Valley, ils ont pas mal asséché les emplois en sortie de Covid. Hein, aujourd'hui, quand il y a des gros licenciements, on est un peu surpris, mais là-bas, c'est vrai qu'ils avaient tellement recruté. Ouais. Deuxième chose, j'avais mis dans les sujets Walmart. Walmart, tu vois, ils ont dit, j'avais sorti un article, Walmart dit, mais nous, on est en train, c'est pas le nombre de personnes qu'on va supprimer, on est en train de former tout le monde à l'IA. Et justement, on rend les gens beaucoup plus efficaces. Donc, mais nous, évidemment, on va pas supprimer l'emploi, on va le transformer. Et dernière chose, moi, je pense que c'est une voie pour l'ingénieur. Parce qu'un ingénieur, c'est quoi? Un ingénieur, c'est quelqu'un qui sait gérer la complexité en structurant son raisonnement et en le modélisant. Eh bien, aujourd'hui, les ingénieurs, ils font pas ça. Ils sont souvent en train de faire des trucs rébarbatifs, des lignes de code. Eh bien, là, ça va redonner vraiment le sens au métier de l'ingénieur. Donc, tu vois, quand on dit, ouais, je vais me supprimer les ingénieurs, moi, j'y crois pas. Je pense qu'il faut vraiment, quand on est patron, c'est se dire, attends, je vais redonner le sens aux ingénieurs et leur enlever un peu tout ce qui est.
Ils supprimeront ceux qui sont les moins bons.
Mais par contre, il faut que ce soit une décision patronale.
Allez, on termine avec les télécoms et on y voit désormais plus clair sur l'avenir de la marque SFR pour ses abonnés particuliers et entreprises. L'opérateur télécom va être intégré dès la première année par ses repreneurs Bouygues, Free et Orange. Et aucun des trois concurrents ne compte conserver les différentes marques de SFR. Mathieu Perchberti nous explique tout ça.
L'autorité de la concurrence veille sur le rachat de SFR. Son président Benoît Cœuré ne s'oppose pas au principe d'un retour à trois opérateurs télécoms, même si, dit-il, l'opération ne va pas de soi. Il souligne un risque de coordination entre Bouygues, Free et Orange lorsqu'ils vont prendre possession ensemble de l'opérateur vendu par Patrick Drahi fin 2027. Le découpage de SFR prendra ensuite plusieurs années et ses concurrents devront donner des gages d'indépendance pendant cette période de transition. Les vieux démons des télécoms ressurgissent 20 ans après la condamnation d'Orange, SFR et Bouygues pour entente, ce qui avait conduit à l'arrivée de Free Mobile en 2011. Le président de l'autorité de la concurrence souligne également que cette opération de concentration devra prouver qu'elle améliore le service ou la qualité des réseaux pour le consommateur qui risque de subir une augmentation des prix. Mais Benoît Cœuré conclut toutefois que l'opération va dans le sens de la concentration du secteur des télécoms en Europe, s'inscrivant ainsi dans l'esprit du rapport Draghi.
Voilà, c'est une page dans le monde des télécoms français qui est en train de se tourner. Alors, elle va se tourner lentement parce que, entre la réglementation, les différents accords, essayer de dépatouiller tout ça parce que, en fait, déstructurer SFR qui compte aujourd'hui 20 millions de clients, c'est quelque chose de titanesque. Hein. Ça va prendre sans doute 2 ans, hein, enfin un an et demi, 2 ans à peu près. Mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Trois opérateurs au lieu de 4. Comment ça se passe? Alors, aux États-Unis, il y a combien d'opérateurs?
C'est une bonne question. Alors, les deux plus gros, c'est AT&T et Verizon.
Oui.
Historiquement, il y avait T-Mobile.
T-Mobile, qui est un petit peu le challenger.
Et après, il y a des, je crois qu'en français, on dit des MVNO, donc oui, il y a pas mal de
opérateurs virtuels.
Il y en avait 3. Et c'est vrai que, voilà, pour vous donner des idées de prix, hein, on paye plutôt entre $60 et $100 dessus. Donc, c'est des métiers plutôt très profitables aux États-Unis.
Oui.
Là où, en tout cas, Free avait.
Et souvent, pas avec la qualité de réseau qu'on a, en France.
Oui. Là, pour le coup, même dans la Silicon Valley, des fois, mon téléphone se raccroche parce qu'il n'y a plus de réseau. Donc, en effet, on a encore des problèmes de zone blanche, même dans la Bay Area.
Ouais, donc passer de 3 opérateurs à 4, alors.
De 4 à 3.
De 4 à 3. Salim, quel est ton point de vue?
Bah, en fait, c'est simple. Il y a des règles comme ça qui sont immuables. Moi, j'aime bien. Ça fait tous un moment qu'on est dans la tech et qu'on voit tout ça. Il y en a deux auxquelles se confronte SFR. La première, c'est qu'il y a très peu de marchés en fait, qui existent où tu as plus de 3 acteurs dominants. Donc en fait, c'était déjà le débat quand Free est arrivé. Il y en a un quatrième, 4 acteurs majeurs sur un marché, il y en a toujours au moins un de trop. Ben là, c'est SFR qui a perdu. Donc ça, c'est un truc que tu retrouves dans toutes les industries, c'est assez marrant. Le deuxième truc qui est assez immuable, et on en parlait tout à l'heure, et là, c'est une bonne conclusion de cette émission, finalement, enfin, en tout cas, même si on ne conclut pas l'émission, mais c'est si tu t'adaptes pas suffisamment vite, tu sors du marché et ça va de plus en plus vite. Et c'est ce qui est arrivé chez SFR. Alors c'est toujours triste de voir une belle marque, parce que c'était quand même une belle marque, disparaître. En même temps, pour les avoir un peu pratiqués, les réunionites dont on parle tout à l'heure, je vous donne juste une anecdote. Un moment, justement, j'étais à Silicon Valley, je reçois un coup de fil de quelqu'un de chez SFR. J'étais pas disponible. Il me dit OK, on se voit. Je prends un rendez-vous à minuit et moi là-bas, donc pour eux il était 9h. On fait une réunion. Quand je reviens en France, on en refait une autre, on en refait une autre, et ça a pris 8 mois pour ne pas aboutir à un projet.
Mais ça, c'était quand tu étais chez Google
ou... Non, c'était juste après. Mais si tu veux, c'était vraiment pour moi le syndrome de l'entreprise qui ne s'adapte pas, qui ne va pas assez vite.
Bon, après, c'est un exemple isolé, ce que tu racontes. Il y avait sans doute, et je l'espère en tout cas, des collaborateurs qui étaient beaucoup plus performants et efficaces.
Oui, mais c'est aujourd'hui, j'en fais mon cheval de bataille, c'est qu'il faut qu'on arrive à changer la mentalité des gens. Globalement, mais en entreprise. On ne peut plus continuer.
Un peu sévère sur la mentalité.
Je suis super sévère, mais regarde.
Nous, on les côtoie.
SFR, en tout cas, Altice, a été notre actionnaire principal pendant de nombreuses années.
Oui, c'est pour ça que vous avez une relation amoureuse.
Non, pas du tout. On fait notre job. Je t'assure. Et autant, on voit les défauts et on va dire les obstacles qu'a aujourd'hui SFR, mais il faut voir aussi...
Tu ne peux pas être une boîte comme SFR et avoir et que ce soit en interne quand tu bosses avec des prestataires, que ce soit en relation client, quand même, ils avaient quand même beaucoup de casseroles avec la relation client.
Comme les autres, je pense que là-dessus, ils sont tous un peu équivalents sur les quand on prend, parce qu'ils ont parfois ils ont été premiers dans la relation client, parfois ils ont été seconds. Moi, je trouve que le travail qu'a fait Mathieu Coq, qui est leur DG, c'est un type super.
Oui, mais c'était trop tard.
Dans des conditions pas faciles.
Je pense que là, le souci, c'est que d'un côté, t'as les patrons sont. Je pense que le coût du Covid, Patrick Drahi, pour moi, il a un peu lâché l'affaire. Il essayait de réduire les coûts un peu partout.
Les
autres le faisaient, mais eux l'ont fait un peu plus brutalement. Aujourd'hui, moi, ce qui m'attriste
alors
un peu...
Alors que le Covid n'a pas impacté les opérateurs télécoms parce qu'on continuait à payer nos abonnements.
Excusez-moi, on l'a dit tout à l'heure. Comment on peut expliquer aujourd'hui qu'on a 4 opérateurs et qu'aucun, à la rigueur free, soit véritablement sur l'IA. Il y a aussi Orange avec la partie Orange Business, si tu veux. Mais ils ne sont pas sur l'IA. Ouais, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas la vision.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une T-Mobile ou Verizon soit dans l'IA.
Je pense que quand François disait que pour moi, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut quand même aller vite. Parce qu'aujourd'hui, imagine attraper des nouveaux clients pour SFR, c'est impossible. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde est au courant
de faire acheter.
Donc, comment on fait quand on va renouveler les contrats des entreprises? Alors, c'est là où il va falloir. Moi, je pense que c'est là où il va falloir très vite faire les liens. Le gars de SFR sera avec un gars de Orange ou un gars de Bouygues Télécom. Il faut faire ces alliances assez vite. Là, je pense que sur le terrain, il va falloir aller assez vite de ce côté-là. Et puis, Benoît Cœuré, il joue son rôle. Il lève le bâton en disant attention, parce que moi, je suis persuadé que les prix, pas sur les mobiles, mais je suis persuadé sur le fixe. Ça va augmenter.
Mais c'est clair.
Je veux juste dire un mot, et je continue à le dire. Les entreprises, il va falloir qu'elles s'adaptent ou qu'elles disparaissent, et ça va être de plus en plus violent. Donc ça, tant qu'on ne comprend pas, le monde a changé, il faut aller plus vite. Et je trouve qu'on ne va pas assez vite ici. Je suis désolé.
Oui, mais là, vous voyez, on est en retard. Donc, on va trop vite. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, Salim Nassur, fondateur de Mars. Merci à Mathieu d'être venu nous voir.
Merci.
Bon retour à San Francisco. Et on espère te revoir bientôt. Tu es responsable du labo de KT Innovation à San Francisco. Et merci à toi, Fred. On se retrouve demain soir.
Demain soir,
Tech & Co, la quotidienne, bien sûr.